Alors, par rapport à la référence, je présume que vous voulez une référence française.
Ou anglaise.
Ah, mais anglaise. Anglaise, c'est facile. Anglaise, c'est de... J'ai fait un livre, il y a quelques années, qui s'appelle The Spirit of the Buddha, mais je peux aussi le laisser sur la table.
D'accord.
Et ça, c'est moi qui l'ai organisé. Et donc... là-dedans, je regarde la vie du Bouddha, les enseignements, puis je regarde le chemin octuple, puis il y a toutes les... J'ai des citations, des textes, et puis après, des commentaires par rapport à ça. Okay.
Et en français, donc,
en français, il faudrait que je suis sûre qu'on peut le trouver, mais il faudrait que je recherche sur Internet, et je pourrais apporter ça demain, si vous revenez demain.
D'accord, merci.
Le livre de Raoula.
Voilà, oui, il y a aussi, bien sûr, le livre de Walpola Raoula, qui doit regarder ça. Oui, mais enfin, il est bien, mais il est un peu vieux quand même. Mais il est bien. Ouais. Alors, R-A-H-U-L-A. Ça, c'est Walpola, mais si on met W-A-L-P-O-L-A. Oui.
Oui, non, c'était juste pour dire juge.org. Il y a beaucoup de livrets, de textes traduits en français de différents enseignants. Et je crois qu'il y a même un livre sur le sentier
occulte. Oui, oui, oui. Donc la référence, c'est le refuge. Oui.
Alors moi, j'avais un petit par rapport à la pratique de la marche.
Alors, bien sûr, il y a différents types de méditation marché et il y a différents supports sur lesquels on peut s'ancrer. Et donc, bien sûr, on peut s'ancrer quand on marche sur le rythme de la respiration avec le rythme de la marche. Aussi en Birmanie, là, ça devient encore plus technique. Ils peuvent vous décomposer tous les mouvements en connexion avec la respiration. Mais là, c'est très, très lent. C'est extrêmement lent. Donc, il faut vraiment connaître ce type de technique pour le faire. Et donc, mais autrement, en termes pratiques, simples, on peut aussi, bien sûr, quand on fait la marche, aussi se focaliser sur le rythme de la respiration avec la marche. Bien sûr, c'est sans problème. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui.
J'ai une question. C'est par rapport plus à ce que j'ai entendu, les enregistrements sur la dernière que vous avez fait en décembre, l'application de danse.
Alors, il y a une technique, je ne sais pas si on la fera ce week-end, ça dépend de mon humeur, de ce qui va se passer. Et la technique, c'est par rapport à ce qu'on appelle la pratique, la cultivation des qualités. Et donc, de quatre qualités, la bienveillance, la compassion, la joie et la sérénité. Et donc, généralement, une des techniques par rapport à l'ancrage de cette pratique, c'est qu'on va réciter intérieurement, silencieusement, des phrases. Donc, par rapport à souvent celle qui est le plus connue, c'est la méditation de la bienveillance, qui est appelée méta-méditation, M-E-T-T-A. Et la plupart du temps, les phrases peuvent être... On a un peu l'impression que c'est comme un souhait. Mais en fait, ces phrases, c'était pas vraiment... Les phrases elles-mêmes ne se trouvent pas dans les textes originaux, mais les phrases, ce sont une méthode qui a été développée plutôt au Sri Lanka, avec plus tard, vers le, si je ne me trompe pas, 3e, 5e siècle, je pense, avec Buddha Gosha. Et donc, les phrases, généralement, on peut, cette sorte de grammatiquement de prière, parce que souvent c'est par exemple pour la bienveillance, que je sois heureux, que vous soyez heureux, que vous soyez en paix, que je sois en paix, que vous soyez sans souffrance, que je sois sans souffrance, par exemple. Et dû à la forme de la phrase, on pourrait penser que c'est comme une prière. Et en fait, ce qu'il faut voir avec cette pratique, bien sûr, si ça nous aide, on peut le faire comme une prière, il n'y a rien contre ça. Mais l'idée de cette pratique, en fait, dans les textes, la façon dont le Bouddha en parle, il en parle plutôt comme une infusion. Lui, il dit, est-ce que vous pouvez être infusé par la bienveillance? Et donc, dans un sens, vous essayez de vous infuser, un petit peu comme la verveine, vous infusez de bienveillance pour vous-même. Et après, l'idée, c'est que l'infusion de bienveillance puisse se propager. Et là, c'est dans toutes les directions. Alors, ils disent en haut, en bas, de côté, partout. Et donc, c'est l'impression qu'on s'infuse de bienveillance, et après on essaie de propager, que cette infusion de bienveillance puisse se propager à tous les êtres, toute la vie autour de nous. Ça, c'est ce qui est dans les textes. Après, Bouddha Gosa a dû trouver que ça serait bien d'utiliser des phrases, et donc il commence à suggérer qu'on utilise ces phrases, que je sois heureux, que tu sois heureuse, etc. Mais ce qu'il faut vraiment voir par rapport à cette technique, c'est vraiment, c'est pas une prière à distance. Mais en même temps, on peut dire que c'est un vœu dans le sens que on veut du bien aux autres. Donc à ce niveau-là, oui, c'est comme un vœu. Je veux du bien aux autres, au lieu de vouloir du mal aux autres. Donc il faut voir que ces qualités, c'est des antidotes. Et donc, par exemple, la bienveillance, ça sera l'antidote de vouloir faire du mal aux autres. Et donc, c'est vu comme cultiver quelque chose comme une antidote, quelque chose qui est déjà en nous. Et en même temps, il faut voir que les phrases vont être, dans la pratique, vont être vues comme un ancrage. Et donc l'idée d'utiliser des phrases, ça va être presque comme une antidote d'avoir des pensées. Parce que quand vous dites une phrase intérieurement, silencieusement, que je sois heureuse, que tu sois heureux, etc., vous ne pensez pas à autre chose. Ah mais bien sûr, quand l'attention et la concentration disparaissent, on va penser à autre chose. Mais hop, on revient aux phrases. Et donc, on pourrait dire que les phrases sont un bon ancrage. Et donc, vraiment, il faut voir que les phrases sont utilisées comme un ancrage. Et pour moi, personnellement, je trouve qu'il y a aussi une dimension de questionnement, dans le sens qu'on va penser à soi-même et on va penser aux autres quand on amène ces phrases d'une façon différente. Et on va aller essayer d'avoir de la bienveillance envers cet être, moi-même, ou les autres êtres au niveau humain, et pas penser à les choses que j'aime pas au sujet de cette personne. Donc, c'est pour ça, je dirais que c'est des pratiques pour cultiver l'ancrage, c'est aussi des pratiques pour cultiver la vision intérieure, dans un sens, le questionnement. Mais, bien sûr, la façon dont c'est écrit, ça a une forme de prière, et qui sait, ça peut aider. Après, il y a toujours aussi le truc par rapport à cette pratique, c'est que les phrases ne vont pas marcher pour tout le monde. Certaines personnes, ça va leur faire de l'effet, d'autres, ils n'aiment pas utiliser les phrases. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'on peut aussi utiliser plus le ressenti, dans le sens que, est-ce que je peux faire l'expérience d'un peu de bonheur ici et maintenant, d'un peu de sécurité ici et maintenant, et est-ce que je peux souhaiter ça aux autres? Et donc, souhaiter, pas dans le sens de prière, mais plus souhaiter que les gens aient la possibilité de faire cette expérience. Un peu une sorte de partage avec les autres. Un peu aussi cette idée d'unification, qu'on partage ça avec les autres, qu'on n'est pas séparé des autres à ce niveau-là. Est-ce que ça répond à la question?
Oui,
exactement. Et en même temps, je pense que ce qui est très important, c'est qu'il y a ces techniques, elles vont être expliquées de différentes manières, et puis il y a la façon dont vous-même, vous allez vous l'approprier, et peut-être que pour vous, de le faire comme une prière a du sens, parce que ça vous fait un certain ressenti. Donc, le seul truc que je dirais par rapport à, est-ce que c'est parce qu'on peut avoir un truc de prière qui a un ressenti, ou on peut avoir quelque chose qui est peut-être plus abstrait et métaphysique dans le sens qu'on espère que ça va améliorer le sort des gens. Et ça, pour le moment, ça n'a pas été prouvé. Donc, c'est à ce niveau-là que je ne m'aventurerai pas. Au niveau du ressenti, je le ressens comme une prière, oui, dans le sens que c'est un vœu. Et que ça nous fait ressentir, parce qu'il faut voir que aussi, en se dirigeant son attention vers la bienveillance, par exemple, on va un peu se mettre sur le canal, la chaîne, on pourrait dire, de la bienveillance. Et donc, ça nous fait aller plus vers ce sentiment et on aura plus un ressenti bienveillant. Et donc, il y aura un certain ressenti aussi, qui peut être un peu pareil à de la prière qu'on peut avoir. Oui ?
J'ai de la bienveillance. Instinctivement, j'utilisais des visualisations. Est-ce que c'est possible de s'imaginer prendre quelqu'un dans ses bras, prendre plus de personnes ?
De nouveau, chacun va pouvoir se l'approprier à sa propre manière. Et donc, oui, on peut faire. De nouveau, il y a des personnes, les phrases vont marcher plus. D'autres personnes, une sorte de ressenti va plus parler. Et d'autres personnes, visualisation va être plus. Va plus marcher. Donc, oui, on peut faire différentes visualisations. Parce que, dans un sens, la façon dont c'est dans les textes, on pourrait presque dire, c'est assez. Presque comme une visualisation. Parce que. On visualise les différentes directions, les personnes des différentes directions. Et donc, ça va un peu dans le sens que j'embrasse la personne, j'entoure la personne avec bienveillance et puis j'amène de plus en plus de personnes dans ça. Donc, c'est un peu chacun à sa manière aussi d'approcher ces choses. Oui.
Dans mon expérience, je sais que les phrases, c'est quelque chose qui me... Quelque chose qui m'interroge, vous avez parlé de phrases comme un ancrage. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça ne devienne qu'un ancrage
Alors, c'est pour ça que dans le texte, il parle vraiment d'infusion, il parle vraiment qu'on est saturé. En fait, le texte parle beaucoup d'être saturé, comme si un tissu. Si on avait un tissu blanc et puis après on le met dans une coloration bleue par exemple et puis le tissu devient saturé de bleu, mais c'est la même chose, le texte parle d'être saturé que de tout le corps, l'esprit, tout est saturé par la bienveillance, la compassion, la joie et la sérénité. Et donc les phrases vont marcher comme un ancrage. Si c'est, on pourrait dire, un ancrage vivant, dans le fait qu'on revient aux phrases, on revient au sens des phrases, on revient au ressenti des phrases. Mais bien sûr, comme toute phrase, ça peut devenir automatique, et dans le sens qu'on répète les phrases, mais il n'y a pas tout ce ressenti de bienveillance qui va venir avec. Et donc là, ça devient presque plus comme un mantra. Et donc, je pense que c'est la différence un petit peu, mais enfin, encore que les mantras, c'est autre chose, mais que si on dit la phrase, c'est vraiment d'être conscient qu'on dit la phrase chaque fois. Donc, même dans cette pratique, il y a cette conscience bienveillante, il y a cette attention bienveillante, et donc que je sois heureuse, que tu sois heureux, chaque fois, ça devrait, dans un sens, avoir du sens. Mais il est vrai que oui, à un petit moment, ça peut devenir un peu automatique. Mais ça, c'est comme toute méditation, peut devenir un peu automatique, et on le fait sans avoir vraiment totalement ancré, totalement conscient de ce qu'on fait. Donc ça, je pense que ça peut être dans tout. Mais je suis d'accord que toutes les phrases ne vont pas marcher tout le monde de la même manière que se focaliser sur la respiration ne va pas marcher sur tout le monde. Et donc après ça, il y a aussi la question avec ces qualités. Est-ce que je développe ces qualités directement à travers une pratique comme ça? Ou est-ce qu'en fait je fais l'expérience de ces qualités à travers une autre pratique? Et ça, c'est toujours un peu comme ça. Moi, je pense qu'il y a ces deux aspects. La même chose avec la pleine conscience. On peut pratiquer la pleine conscience directement en étant conscient, ou on peut faire l'expérience de la pleine conscience en faisant une autre pratique, pas de la pleine conscience, mais qui a cet ancrage et cette vision profonde ensemble. Comme lorsque j'ai pratiqué quand j'étais en Corée et que je posais une question. Et de la même manière, en faisant cette question qui n'avait en général rien à faire avec la compassion, son effet, c'était de faire que j'avais plus de bienveillance et plus de compassion. Donc il y a toujours le truc entre la sorte de pratique que l'on fait et le résultat de cette pratique. Et donc on peut pratiquer les choses directement ou je dirais indirectement. Donc on n'est pas, pour développer la compassion, on n'a pas seulement les phrases à cultiver pour développer la compassion, on peut le faire de différentes manières, bien sûr. Oui.
Ouais, peut-être la première question.
Donc,
oui, j'aurais des questions. Donc la première question, c'est me détacher un petit peu. Ou est-ce que ça peut être utilisé? Vous avez parlé aussi des questions, de peut-être me connecter avec ma pose, par exemple. Quelle est mon place sur la terre? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que ça peut être une autre?
Alors, je dirais que la méditation, ça dépend. Enfin, il y a des tas de pratiques, mais ça peut un petit peu faire un peu oui ou non les deux. Je pourrais répondre oui et non aux deux questions, dans le sens que, en partie, la méditation en utilisant l'ancrage, ça va nous aider à être plus dans le sens, dans tout ce qui se passe, d'être vraiment présent à tout ce qui se passe. Et en fait, ça va, j'en parlais un peu plus cet après-midi, ça va nous apporter de l'espace autour des choses avec lesquelles on est en relation. Et donc, avec ça, ça va nous apporter, ça va nous donner l'impression d'avoir une sorte de recul, parce qu'on va être moins coincé avec. Mais en même temps, moi, quand j'aime pas trop utiliser le mot recul, parce que ça nous donne l'impression qu'on doit être détaché d'une certaine manière, qu'en fait, je pense que l'idée de la méditation, c'est pour nous aider d'être avec, à l'intérieur de quelque chose, mais avec plus d'espace autour. Donc, je dirais, c'est en partie la méditation va nous aider à voir la chose d'une façon plus spacieuse et d'être avec d'une façon plus complexe, on pourrait presque dire. Après, il y a vraiment une partie, on en parlera un petit peu cet après-midi, il y a une partie de la méditation qui est vraiment de développer, de cultiver le pouvoir qu'on a d'investiguer, d'explorer, de questionner. Après, en termes de la méditation, on va faire ça d'une façon relativement technique, qui va être soit de poser une question, soit cet après-midi, je vais en parler, d'être conscient de l'impermanence, du changement, des choses comme ça. Et en même temps, bien sûr, on peut avoir ce que j'appellerais la méditation de pensée créative. Parce que quand on se pose des questions sur sa vie, sur le sens de sa vie, est-ce que c'est dans un sens totalement abstrait? Est-ce que c'est parce que ici et maintenant j'ai un ressenti qui est négatif et ça va me faire partie dans une exploration qui est une exploration mais qui va pas être nécessairement bénéfique, parce que ça peut partir dans des choses un peu déplaisantes, on pourrait dire. Ou est-ce que ça va être une exploration qui va être vraiment ancrée, stabilisée, ce qui fait que je vais pouvoir explorer ces questions et il va y avoir une certaine créativité, une certaine clarté par rapport à ça. Et donc, en partie, l'idée de la méditation, c'est de nous apporter de la clarté, de telle chose qu'on peut voir les choses plus clairement, et l'idée de telle façon que ça puisse nous aider à agir et être en relation avec plus de bienveillance et plus de clarté. Donc, il peut y avoir les deux aspects. Un aspect, on voit plus comment on est, dans un sens, connecté avec tout ce qui est autour de nous, d'une façon ici et maintenant présente. Et il peut y avoir, bien sûr, plus de réflexion. On peut avoir une réflexion sur différentes choses. Et la méditation va nous aider parce que ça nous apportera plus de stabilité dans la réflexion. Parce que des fois, on réfléchit, ça c'est toujours la question, on réfléchit, mais est-ce que cette réflexion va être vraiment stable, bienveillante, créative, ou est-ce qu'en fait c'est une exploration qui va être alourdie par un sentiment souvent de peine en fait. Et après c'est un peu difficile de faire cette exploration, même si bien sûr souvent on doit la faire.
Et moi, je vous ai une question si je peux. En fait, quand je pratiquais à l'extérieur, je me sentais vraiment pas du tout bien. C'était une mal au vent intense, très désagréable. Donc, ça.
Alors, ça dépend. Est-ce que ça vient juste parce que vous méditez, ou est-ce que dans la vie courante, vous pouvez avoir aussi cette expérience?
Cette forme-là, non, c'est la première fois arrivée, c'était vraiment bizarre. C'est comme si je dois être entrée dans les. Finalement, je partais et je n'ai vraiment pas bien.
Voilà. Alors, des fois. Ça, c'est toujours un peu une des difficultés avec la méditation, c'est que c'est une technique et on va vous dire, ben, vous essayez de la faire. Puis après, quel est l'effet que ça vous fait? Parce qu'il y a la façon dont on la fait et aussi un peu, est-ce que ça va être un déclencheur de quelque chose? Parce que ça peut changer un peu les habitudes du ressenti. Ça peut aussi changer un peu ce qu'on appelle la... En français, je ne sais pas si on peut dire ça... Prioception, le sens que l'on a de son corps. Et donc, c'est un peu quand on.
Hein?
Proprioception. Voilà, proprioception. Et donc, on a une certaine ressenti de soi-même, dans son corps et tout ça. Et puis, si on vous dit d'être conscient d'une certaine manière, ça peut changer un peu cette proprioception et tout à coup, on va se sentir bizarre. Alors, la question est-ce que ce ressenti a continué? Ou dès que vous avez arrêté de vous concentrer, de méditer, de juste regarder les arbres et tout, est-ce que ça, c'est parti?
C'est parti, mais je me dis, si je continue, est-ce que c'est peut-être des émotions du coup, on les évacue? Et je ne savais pas quoi faire. Est-ce que si je continue, dans ce cas-là, je ne sais pas, je tombe dans les pommes, je ne me sens pas bien? Ou est-ce que je m'arrête un petit peu pour laisser passer ça? Puis de la prochaine fois, est-ce que ça va revenir? Donc vous voyez, c'était une...
Oui, oui, non. Et moi je dirais qu'en général, surtout si on commence, de faire attention. Et donc, je dirais non, c'est mieux que si vous avez un phénomène qui a l'air de vous paraître un peu bizarre, un peu, vous sentez pas très bien avec, pouf, vous arrêtez la méditation et puis vous faites quelque chose de très ordinaire pour revenir à un sens plus... ordinaire de vous-même, et après, vous l'aurez peut-être ou vous l'aurez pas. Alors généralement, l'idée, que ça soit n'importe quoi, l'idée avec la méditation, c'est de voir quelles sont les conditions. Si quand vous êtes assis, ça vous arrive pas, bon, c'est pas nécessairement connecté à la méditation. Si c'est quand vous marchez, et est-ce que c'est parce que vous marchez d'une certaine manière ou parce que vous vous focalisez d'une certaine manière ou qui sait, il faut voir. Alors, est-ce que ça arrive chaque fois? Est-ce que ça arrive dans toutes les positions? Est-ce que ça arrive si je m'ancre que sur le corps ou si je suis dans l'écoute? Est-ce que ça arrive aussi? Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est un peu remarquer quelles vont être les conditions si j'ai un effet qui est, on dirait, non souhaité. Parce qu'on ne veut pas... Il peut des fois y avoir, avec la méditation, ce qu'on pourrait dire, des effets non souhaités qui ne sont pas agréables et qui ne sont pas utiles. Parce qu'il peut y avoir des effets non souhaités qui sont désagréables et qui peuvent être utiles, mais pas nécessairement tout le temps. Donc, il faut faire vraiment attention avec ça. Parce que oui, comme vous dites, si je continue, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Donc, c'est mieux de... On l'arrête, on... Ce qui est important, c'est que ça puisse s'arrêter. Ça, c'est très important. Le fait que s'il y a un effet non souhaitable, un peu déplaisant, et que si on arrête de méditer, ça passe, c'est ça qui est important, le fait que ça change.
Difficulté à méditer sur soi et sur ouverte au monde à l'extérieur. Un petit problème, c'est-à-dire de ne pas pouvoir toucher un arbre, regarder des insectes, un monsieur qui portait quelque chose, de ne pas pouvoir lui proposer de l'aide, ça m'a gêné alors que ça ne me gêne pas du tout à l'intérieur.
Alors,
est-ce que c'est normal ou
non.
Il faut rester bien centré sur soi
Non, l'idée c'était un peu de voir la différence. C'est pour ça, généralement, c'est pour ça que ce matin, pour la marche, c'était est-ce qu'on peut être plus focalisé sur soi-même, sur les sensations et tout ça, et est-ce qu'on peut faire ça d'une manière qu'on ne se sente pas séparé de ce qui est autour de nous. Parce que c'est ça un peu là. Alors c'était un peu pour jouer un petit peu avec ça. Et cet après-midi, bien sûr, parce que je pense que la marche est fantastique pour ça, cet après-midi, ce qu'on va faire, c'est plus en fait s'ouvrir à l'extérieur de nous-mêmes. Et donc utiliser la marche pour travailler avec voir, pour travailler avec écouter, pour travailler avec partager l'espace avec les autres. Et donc je pense que c'est très utile et très important par rapport à la marche de faire ça. Mais pour voir un peu l'effet de la différence. Voilà, c'était pour ça. C'était pour voir que oui, en même temps, certaines personnes pourront le faire plus facilement que d'autres. Ça, c'est un peu, je pense, si on est plus intérieur ou extérieur aussi, il y a aussi ça qui joue. Mais ça peut être intéressant de voir. C'est un peu pour ça, la marche, il y a un peu plus, on ne peut pas explorer. Mais c'est vrai que oui, dans l'assise, ça va être plus facile de se concentrer sur soi-même de cette manière, bien sûr. Et c'est toujours un peu plus difficile de faire ça dehors. Oui.
Étonnée, parce que justement, dans ma pratique, justement, de regarder ce qui se passe quand il y a des palais, finalement, c'est la version que nous. Donc, dire qu'on arrête de méditer à ce moment-là, ça me comprend.
Alors. Là, il faut voir que c'est une personne qui n'a jamais médité et qui essaie de méditer pour la première fois. Et qui, en marchant, ressent comme une sorte de malaise. Ce qui est très différent que de ressentir quelque chose de désagréable qui a un sens. Parce que c'est différent de « je suis en train de marcher, je suis consciente, et puis tout à coup j'ai des sensations dans l'estomac » où j'ai des sensations dans le cœur, où j'ai quelque chose qui est douloureux ou qui est désagréable, où j'ai une pensée désagréable. Là, c'est différent. Là, c'est quelqu'un qui fait la méditation pour la première fois et qui a un ressenti qui, j'appellerais, est bizarre, dans le sens qu'il y a un ressenti qui est bizarre. Et là, il faut faire très attention. Il y a toute une étude par notre ami Willoughby. Yeah. Généralement, la méditation convient à presque tout le monde. Mais elle ne va pas convenir à tout le monde de la même manière. Et donc maintenant, il y a une petite partie de tout cet engouement, on pourrait dire, pour la pleine conscience et la méditation, qui aussi regarde un petit peu les effets néfastes qu'il pourrait y avoir avec la méditation. Et c'est pour ça, dû à ça, on fait assez attention, moi je pense. Et donc c'est vraiment, il y a une différence entre si on médite depuis des années, ça va être très différent, que si on commence et on a tout de suite quelque chose d'un peu différent, il faut faire attention. Et moi personnellement, je suis vraiment quelqu'un qui fait très attention par rapport à ça. Donc c'est pour ça. Alors, et de nouveau, ça dépend le contexte, qu'est-ce qu'on ressent, comment on est, tout ça. Mais généralement, si on ressent quelque chose de bizarre, moi, je dirais, on essaie d'arrêter la méditation et de revenir à quelque chose d'ordinaire. C'est ce que, personnellement, je recommande. Mais je sais que tout le monde ne sera pas nécessairement d'accord avec moi. Willoughby Britton. Donc, alors, son nom, c'est un peu compliqué. Alors, Willoughby, c'est Willoughby. Et Britton, c'est Britton. Et donc, Elle se spécialise. Alors, il faut faire attention parce qu'elle, elle se spécialise. Donc, elle a fait une étude qui était un peu, comment dire, qui est partie d'un parti pris. Elle a étudié des gens qui, seulement s'ils avaient des problèmes avec la méditation. Et si jamais il y en avait un d'eux qui n'avait pas de problème avec la méditation, il était sorti de l'étude. Donc, elle est en train, elle étudie une toute petite fraction des gens, mais elle pense que c'est important parce qu'on étudie tous les gens qui n'ont pas de problème avec la méditation, et elle pense qu'il y a quand même peut-être 5% de personnes qui vont peut-être mal réagir à la méditation. Alors généralement, un petit week-end, ça vous fait pas... Généralement, ça va avec un petit week-end. Mais bien sûr, elle a fait des études et il y a certaines retraites qui auront plus cet effet peut-être un peu néfaste sur un certain nombre de personnes que de faire un petit week-end avec moi. Généralement, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Mais il y a certaines retraites qui sont très intenses et il peut y avoir des problèmes de dépersonnalisation, ou etc., etc. Donc c'est pour ça que on est assez conscient de son étude. Et maintenant, si on va, maintenant quand on va dans une grande conférence sur la pleine conscience, généralement Willoughby est aussi là pour nous rappeler faites attention. Qui, je trouve, n'est pas une mauvaise idée.
Hein? Je lutte beaucoup. Oui, je me bats un peu à l'intérieur.
Voilà, alors là, c'est toujours un peu les conditions, les circonstances. C'est que généralement, on va se dire, je vais venir à ce week-end. Et puis, mais on ne peut pas garantir, moi non plus, je ne peux pas garantir comment je vais être avant que le week-end arrive. Donc, on arrive au week-end, et des fois, on arrive à des week-ends, on est plein d'énergie, chouette, ah, j'ai toujours rêvé de faire ça, oui. Mais on arrive à des week-ends et on est... Alors là, c'est la question, est-ce que il y a assez dans un sens de méditation que je ne me force pas, que je sois toujours en train de me forcer de le faire? Moi, en fait, j'ai dit à une amie de ne pas venir parce qu'elle avait un lumbago. Et elle me disait, je vais peut-être venir juste l'après-midi. Je lui dis, tu as un lumbago, tu te reposes et tu reviendras une autre fois. Parce que là, c'est pas la peine de venir à un lumbago, ça ne va pas l'améliorer. Donc, la question ici, c'est, bon, vous avez réussi à venir, donc il y a assez d'énergie pour venir, mais en même temps, quand on est assis, alors ce qui est intéressant à voir, est-ce que c'est mieux pendant que vous marchez? Peut-être que quand vous marchez, est-ce qu'il y a plus de pleine conscience? Est-ce qu'il y a plus que vous voyez? C'est pareil. Vous êtes fatigué l'un ou l'autre. Alors là, je ne sais pas si vous êtes inscrite pour les deux jours. Alors, c'est à vous de voir. Peut-être que l'après-midi, vous pouvez rentrer à la maison et aller vous reposer. Et voir comment vous sentez demain, puis revenir si vous sentez mieux ou pas. Parce que je pense qu'il y a aussi ça. Une question de... Oui, on peut se forcer. Il n'y a pas de problème, on peut se forcer. Moi, j'ai été dans... J'ai fait des retraites où, oui, on se force, on y va, parce qu'on est dans ça. Mais là, comme surtout si vous avez du travail pendant la semaine, et que lundi, il faut repartir au boulot et tout ça, il faut quand même, dans un sens, la méditation peut, oui, vous apporter de l'énergie, vous apporter un certain calme, vous apporter quelque chose. Et en même temps, si on est trop fatigué, ça va... On va plus être en train de se forcer de faire quelque chose. Est-ce que c'est une bonne idée? Moi, personnellement, je partirai toujours un peu dans la bienveillance, de se couper de soi-même, d'être bienveillant. Et donc, peut-être, de ne pas revenir cet après-midi. Et de revenir demain, si vous vous sentez mieux. Mais parce que je pense qu'il y a... C'est un peu... Il y a une limite. Il y a... on se sent très bien, on ne se pose pas de questions. On se sent très mal, je dirais, on ne se pose pas de questions comme mon ami avec le lumbago, alors là, vraiment, non. Et en même temps, on peut être au milieu, où on est un peu bien, puis hop, on est un peu mal, oh, on est un peu bien. Là, c'est le plus difficile, parce qu'on est assis là, oh là 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 là. Alors, si on est obligé, dans un sens, si on est en retraite de 7 jours, on reste avec. Et puis on peut faire avec le schedule et tout ça, avec le programme et tout ça. Si on vient pour un week-end, c'est un peu différent. Donc c'est à vous de voir. Mais ça c'est un peu toujours un peu une question un peu difficile. Parce qu'on se dit, oui, l'impermanence. Quand est-ce qu'elle va arriver, l'impermanence? Alors ça, on va en parler demain matin, en fait. Et donc, je pense que demain, je parlerai plus de l'effort juste, mais je pense que c'est toujours une question. L'effort, parce que des fois, c'est l'effort sans effort. On le fait, ça se fait tout seul. Des fois, il faut pousser un peu. Et puis des fois, et puis il faut laisser aller. Et donc, des fois, il faut accepter qu'on ne peut pas le faire, en fait. Parce que je pense qu'il y a aussi l'effort de ne pas le faire. Parce qu'on peut se forcer, mais est-ce que ça va nécessairement être toujours une bonne idée de se forcer? Moi, je ne suis pas sûre. Donc, je pense qu'il faut avoir quand même un peu assez d'énergie. Et puis après, avoir un peu... Parce que si on n'a pas d'énergie... C'est dur d'avoir une intention qui va nous porter. Parce que je pense qu'il faut aussi voir, par rapport aux conditions, que souvent on se dit, ah, la méditation, je parlais cet après-midi, l'intention. C'est l'intention. Mais combien vous aurez d'intentions, ça ne va pas être abstrait, ça va être physiologique en fait. Si vous avez de l'énergie, votre intention sera plus vive. Si vous êtes totalement fatigué et fatigué, c'est... Alors oui, vous y croyez. Oui, oui, vous avez confiance. Oui, j'aime bien la méditation, mais... Moi, je pense qu'il faut vraiment avoir aussi une clarté par rapport à la physiologie. Et qu'il ne faut pas se tromper en se disant « Non, 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 c'est une question de discipline, c'est une question de mental. » Moi, je pense que souvent, des fois, c'est une question de physiologie. Bien sûr, des fois, c'est une fatigue passagère. Si c'est une fatigue passagère, on peut être avec et elle passe. Mais si c'est une fatigue plus prononcée, là, il faut vraiment généralement se reposer. Et puis, une fois que le corps est vraiment reposé, hop, on a de l'énergie. Parce que moi, je sais que souvent, quand je reviens de voyage, je vais être vraiment fatiguée. Pendant 2 jours, je vais être là, vraiment fatiguée, fatiguée, fatiguée. Et généralement, je ne fais pas grand-chose, je fais le minimum. Parce que je sais qu'à un moment donné, mon corps, physiologiquement, il y a quelque chose qui va se passer. Je vais me lever, ah ouais, et j'ai de l'énergie, j'irai faire du jardinage, j'irai faire ci, j'irai faire ça. Quand d'autres jours, même si j'adore le jardinage, je ne vais pas y aller, même s'il fait beau, parce que je suis fatiguée. Et donc, c'est un peu aussi, pour moi, l'acceptation, l'accueil de la pleine conscience du corps et de ses ressources. Et d'appliquer l'effort juste à ça. Alors ça, c'est la clarté. C'est de voir d'où il vient. Parce que là, parce que moi, quand j'ai quelque chose comme ça, je fais autre chose. Je range mes affaires dans ma penderie.
Penderie. Oui.
Et là, c'est plus comme une lassitude. Et la lassitude, c'est différent. C'est un peu comme on n'est pas motivé. Et là, je me dis, ah, il y a un peu de lassitude. Alors, je fais un petit peu quelque chose pour me donner un peu d'énergie. J'ai pas trop. Et hop, il y a quelque chose qui repart. Tandis que je dirais une fatigue physiologique, là, c'est généralement. Donc oui, non, mais c'est un bon point. Est-ce que c'est plutôt une lassitude qui va emporter tout sur son chemin? Ou est-ce que c'est plutôt ce que j'appellerais une fatigue? Et là, il faut généralement que ça se régénère. Et donc oui, si c'est une lassitude, il faut qu'on se booste un petit peu pour passer au-delà, bien sûr. Voilà, ben, notre temps de discussion.
Oui, j'avais une question, parce qu'en fait, ce problème de fatigue, et en même temps, si à force, j'ai l'impression d'être assez lasse, enfin, le quotidien, et qu'à force de lutter contre cette lassitude-là, ça finit par devenir une fatigue. À quel moment il faut continuer à... jusqu'au moment où finalement, le fait même de remettre en mouvement constamment la machine développe une fatigue physique.
Exactement, et donc il faut de nouveau le juste milieu. Ça, c'est toujours le truc, le juste milieu, de voir que... moi, c'est pour ça que maintenant, j'ai appris à respecter la fatigue. Que, OK, mais moi, dans mes conditions, je peux... Mais en même temps, je peux voir. Quand, par exemple, je m'occupe de ma mère, parce qu'elle a 92 ans, elle a perdu sa mémoire. Alors, généralement, je suis une bonne bouddhiste. Sympa, bienveillant, ta ta ta. Je suis chouette. Et puis si je suis fatiguée, alors là, je le fais toujours, mais il y a moins d'enthousiasme et moins de bienveillance, mais je le fais toujours. Avec plus ou moins de calme, j'essaie de garder le calme, mais je peux voir la différence. Et donc c'est pour ça de voir qu'il y a des choses qu'on peut ne pas faire, c'est ça qui est difficile. Et donc, je pense qu'il faut aussi essayer de faire attention, de se connaître, soit la lassitude, soit la fatigue, et aussi, qu'est-ce qu'on doit faire qui est le minimum. Et de faire attention de ne pas faire le maximum tout le temps. Moi, je pense que c'est ça le truc. Que quand on n'est pas bien, quel est mon minimum, et est-ce que ce minimum est déjà trop ? Ça, c'est le problème. Je pense que surtout si on est une mère avec des enfants, qu'on a du travail, le minimum va être... Et alors, avec des conditions de vie comme ça, quels sont les moments où on pourra vraiment avoir du repos ? Et donc, moi, je dirais, c'est comment faire qu'on ait vraiment du repos ? Que ce soit au milieu de la journée, que ce soit le week-end, que ce soit le soir... Il faut voir qu'on n'est pas des machines. Et donc, on va avoir qu'une certaine quantité d'énergie. Et donc, il faut trouver des moyens pour qu'on puisse faire des pauses. Ça, c'est, moi, je pense que c'est ça qui est très important. Pour ne pas avoir cette fatigue, pour ne pas avoir se forcer, il faut mettre des pauses. Il faut sciemment mettre des pauses. Que ce soit des pauses dans la journée, dans la semaine, dans le mois, il faut mettre des pauses. Et là, il y aura moins ce système où on va se forcer et à un moment donné, on ne pourra plus parce qu'on sera tellement fatigué qu'on ne pourra plus rien faire. Et des fois, on n'a pas le choix. Des fois, c'est ce que j'appelle une vie héroïque. On va être héroïque, on va aller au-dessus de ses forces, mais être héroïque ne va pas durer très longtemps. Parce qu'à un moment donné, on n'aura plus d'énergie pour ça. Et donc, on ne peut pas être héroïque 24 heures sur 24 toute l'année. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir des pauses de temps vraiment ordinaires, de prendre soin de soi, si on veut prendre soin des autres. Voilà, donc, il faut s'arrêter là. Et donc, on va voir le déjeuner. Donc, si vous restez ici dans la pièce et dans le couloir, pour ceux qui veulent rester en silence, vous êtes les bienvenus. Et donc d'utiliser, d'amener un peu de la pleine conscience aussi quand on mange, quand on se promène et tout ça. Et puis bien sûr, il y a aussi, moi je pense que c'est important, ces jours de méditation, de terre d'éveil. Vous avez peut-être des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps ou des gens à qui vous voulez faire connaissance. Et alors là, vous pouvez aller à l'extérieur, vous pouvez parler, vous pouvez vous retrouver au restaurant ou quoi que ce soit et en faire un moment où il pourra y avoir cette... parole bienveillante, cette écoute bienveillante dont je parlerai plus demain. Et on se retrouve à 14h. Donc, vraiment, si on pouvait se retrouver ici, à moins le quart. Et comme ça, on peut vraiment commencer à 14h avec les enseignements. Merci. Merci.